Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur se présente à nous comme le pain de vie. Depuis plusieurs dimanches, nous méditons le sixième chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Tout a commencé, souvenez-vous, lorsque le Dieu Messie a multiplié les pains pour une foule immense. Puis le Seigneur a commencé à délivrer son enseignement, le discours du pain de vie. Si saint Jean, dans son évangile, ne rapportera pas au soir du Jeudi Saint l'institution de la Sainte Messe, comme celle préalable du sacerdoce, il préférera rapporter le lavement des pieds, parce qu'il aura développé dans tout ce chapitre la doctrine eucharistique qui nous voit réunis ce matin encore en mémoire de lui. Dans l'Évangile, ce dimanche, le Seigneur ne mâche pas ses mots. La réalité de son sacrifice, la réalité du mémorial dans la Sainte Messe est affirmée. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, aura la vie éternelle. De telles paroles, avec les Juifs de l'Évangile, doivent tout de même nous étonner. Qui est donc celui-là pour donner sa chair et son sang à manger et à boire ? S'interroge-t-il. Le Seigneur se présente tout d'abord comme le pain vivant. Lorsque nous prenons notre petit déjeuner, lorsque nous bénissons le pain sur notre table, il ne s'agit pas d'un pain vivant, nous ne faisons pas mal à notre tartine de pain en la mordant. Le Seigneur se présente, lui, comme un pain vivant. Il est descendu du ciel dans la ville de Bethléem, signifiant la ville des pains. Et la Sainte Vierge, sa mère très aimée, l'a déposé dans une mangeoire. Cette mangeoire nous dit déjà le sacrifice du Christ qui s'offre à nous sur l'autel pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Lorsque nous le recevons dans la Sainte Communion, comme les bergers, nous nous mettons à genoux car nous reconnaissons nos pauvretés devant la grandeur de ce Dieu qui se dit dans la petitesse de son incarnation, devant la grandeur de ce Dieu dont la petitesse va plus loin encore que celle de son incarnation en se donnant à nous dans le pain et le vin consacré de sa présence. Si avec les bergers nous l'adorons dans notre crèche intérieure, lorsqu'il vient y établir sa demeure, avec les mages, nous lui offrons nos présents, les présents de nos œuvres bonnes. Cette doctrine eucharistique commence tout d'abord par l'affirmation de son sacrifice. Le Seigneur est le corps livré, il est le sang versé. Tout l'Ancien Testament nous présente des sacrifices qui ne sont que la préfiguration plus ou moins lointaine de l'unique sacrifice que le Christ va vivre pour nous sur le bois de la croix, pour le pardon de nos péchés, pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle, pour nous délivrer du mal. L'un des premiers sacrifices rapportés dans les Saintes Écritures est celle d'Abraham, notre père dans la foi. Abraham n'avait qu'un désir avec son épouse, avoir un enfant. Et lorsque le bon Dieu, malgré la vieillesse de Sarah, va accorder cet enfant à Abraham, celui-ci, pour mettre à l'épreuve sa foi, va lui demander le sacrifice de son fils. Alors nous suivons Abraham fidèle à la foi en Dieu, qui tient le petit Isaac par la main, et celui-ci, dans son innocence de s'interroger, « Père, nous allons offrir un sacrifice à Dieu. Nous avons le couteau. Nous avons le bois. Mais où est l'offrande que nous allons offrir en sacrifice ?» Et sans mentir, Abraham d'affirmer, « Dieu saura bien trouver la victime. » Au moment où Abraham s'apprête à sacrifier son fils, voilà que l'ange du Seigneur manifeste la bonté de Dieu dans cet animal dont les cornes sont prises dans le buisson. Ce sacrifice d'Abraham préfigure celui de la croix. Dieu le Père offre son propre Fils en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Il est le nouvel Abraham dans le sens où il va lui-même en grand prêtre opérer l'offrande. Il est le nouvel Isaac parce que lui, contrairement à l'ancien, ne sera pas substitué par un bouc ou un agneau. Voilà la préfiguration de l'unique sacrifice du Christ. De même pour la fête de Pâques, chaque famille offrait pour le pardon de ses péchés de l'année un agneau, un demi-agneau. Mais lorsque Saint Jean-Baptiste, sur les bords du Jourdain, reconnaît la venue du Dieu Messie, que dit-il ? Voici l'agneau ! Mais non pas l'agneau qui vient des troupeaux des hommes, de la perfection de ces troupeaux premiers-nés. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous accueillons dans le Seigneur Jésus l'unique agneau véritable qui vient offrir par le sacrifice de sa vie le pardon de nos péchés, et cela non pas pour une année, une fois pour toutes. Vous ferez cela en mémoire de moi, et le Seigneur a offert ce sang versé pour la multitude que nous sommes à travers les âges. Les préfigurations des sacrifices de l'ancienne alliance ne sont là que pour préparer le sacrifice du Christ dans la nouvelle alliance. Au soir du Jeudi Saint, le Seigneur va anticiper le sacrifice de la croix. De telle sorte, pourra-t-il affirmer dans l'Évangile selon saint Jean, « Nul ne prend ma vie, c'est moi librement qui la donne. » Pourtant, à suivre le crucifié dans les rues de Jérusalem jusqu'au calvaire, nous voyons bien la passivité du crucifié. Il est prisonnier, il est entouré de gardes, on le conduit chez les grands prêtres, chez le Sanhédrin, chez Pilate, chez le roi Hérode, toujours prisonnier jusqu'à être cloué sur le bois de la croix. « Nul ne prend ma vie, affirme le Christ. Je la donne librement. » En effet, au soir du Jeudi Saint, anticipant le sacrifice de la croix, avant son arrestation, voilà que le Seigneur, entouré des apôtres, qu'il vient de faire passer au sacerdoce de la nouvelle alliance, peut déclarer, prenant le pain, « Ceci, le pain que je tiens entre les mains, est mon corps livré pour vous. » Pourtant, ce n'est qu'après ce repas que le corps sera livré. De même, prenant la coupe, peut-il affirmer « Ceci, le vin dans la coupe, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Pourtant, le sang qu'il va verser ne l'est pas encore au moment où il institue ce que l'on appelle dans la tradition de l'Église le sacrement de son amour. C'est bien par amour pour nous, non seulement qu'il va offrir sa vie pour le pardon de nos péchés, pour nous délivrer de la mort comme du mal, mais c'est surtout par amour pour nous qu'il se donne dans cette éternité. Et la célébration de la Sainte Messe et la réactualisation non sanglante de l'unique sacrifice du Christ qu'il a opéré pour notre salut sur le bois de la croix, de telle sorte que ce pain vivant continue de descendre du ciel par le ministère sacerdotal. Voilà que Dieu le Père envoie Dieu le Fils par Dieu le Saint-Esprit. C'est ce que saint Thomas appelle le miracle des miracles. Déjà, nous dit-il, le miracle de l'incarnation était bien grand. Dieu, la nature divine, se tient caché dans sa toute-puissance, dans la faiblesse de l'humanité du Seigneur reçue de Notre-Dame. Mais le miracle des miracles, nous dit saint Thomas, est plus grand encore. Le Tout-Puissant, le Très-Haut, se dit dans la petitesse de sa présence, dans le pain et le vin consacré. Voilà le corps livré, voilà le sang versé, voilà que le Seigneur nous dit qu'il nous faut alors manger sa chair, boire son sang pour obtenir la vie éternelle. Eh bien, frères et sœurs, que cette communion que nous allons recevoir dans quelques instants refasse toutes nos forces, car attention, ce n'est pas simplement un pain que nous recevons, c'est le Seigneur mort et ressuscité. Le Seigneur a insisté dans l'Évangile pour nous dire qu'il y a d'un côté la chair et qu'il y a de l'autre le sang, pour préciser dans les catégories bibliques que nous ne communions pas à un cadavre. Dans la tradition ancienne d'Israël, il y a le corps d'un côté inanimé et il y a le sang qui est principe de vie. Le corps livré, le sang versé, nous dit le sacrifice du Christ qui se présente, parce qu'il est Dieu, comme le vivant. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Il descend du ciel dans son incarnation. Il descend du ciel au sacrement de son amour. Et comme le disait le curé d'Ars, dans la simplicité de ses prédications, il est là au sacrement de son amour. Il est là au sacrement de l'autel. C'est là que nous l'adorons. C'est là que nos yeux nous mentent. Nous ne le voyons plus après la consécration. Nous ne le voyons pas. Nous continuons à voir du pain là où la substance a changé. Il ne s'agit plus du pain. Il s'agit du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus le Christ qui se donne. Il nous l'affirmait au jour de son ascension glorieuse. « Je ne vous laisse pas orphelins, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps et même après, dans l'éternité. » Parce que le bon Dieu demeure présent au sacrement de l'autel, il demeure présent au tabernacle. Alors, fortifié par la foi catholique reçue des apôtres, nous l'adorons dans le Saint-Sacrement et cela se traduit par des devoirs chrétiens. Que l'Église d'hier comme d'aujourd'hui n'a pas changé. Parce que nous recevons le bon Dieu lui-même, il faut alors nous confesser, reconnaître humblement nos fautes pour recevoir le pain de vie, l'adorer avec les bergers et les mages. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, que le saint pape Jean-Paul II appelait la femme eucharistique, nous aider à recevoir le Seigneur avec respect et avec un grand esprit d'adoration et de réparation. Ainsi soit-il.